Alors, j'ai demandé à Jean-Marc, c'est parce qu'il est venu me faire une petite randonnée à mon oreille et il s'est mis à me chanter quelque chose. J'ai dit, vous allez me chanter ça au début, parce que j'ai dit, je veux dire quelque chose à propos de ça. Alors, je vais le laisser chanter. Il m'a dit que ça ne ferait rien s'il y avait des notes fausses. J'ai dit non. Alors, articulez bien.
Ne t'inquiète en rien, demande à Dieu pour tes besoins, d'un cœur reconnaissant, et la paix de Dieu viendra des cieux et gardera ton cœur et ton esprit. En Jésus-Christ.
Merci. Alors, quand je l'ai entendu chanter ça, il m'est venu à l'esprit le texte des Philippiens, chapitre 4, versets 4 à 7. Je trouve que ce serait important de vous en donner un petit commentaire. Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur. Je le dis encore. Dans d'autres versions, on dit, je vous le répète, réjouissez-vous. Y a-t-il quelque chose de plus mystérieux que cette parole? Quand on sait les épreuves et ce qui se passe dans la vie, puis qu'on entend, réjouissez-vous sans cesse. Pas facile, ça. C'est possible. Par la grâce de Dieu, si quelqu'un dans sa vie accueille humblement la croix. C'est possible parce que par une grâce intérieure, Dieu va donner que l'âme se réjouisse, qu'elle reflète la joie malgré la douleur et la souffrance. Ça, c'est certain. Moi, là, quand je vous parle, je ne vous dis pas ça vient de tel auteur, de tel saint, de telle hauteur spirituelle, mais ça fait partie de ça. Les auteurs spirituels, la plupart vont venir vous dire qu'une âme qui reflète la joie est une âme qui accueille la croix. Ça, c'est certain. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Ça veut dire quelque chose. Ça ne veut pas dire prenez la trompette là, puis avertissez tout le monde comment vous êtes bienveillant. Non. Mais l'exemple, vivre intensément. Ce qui suppose vivre intensément sa foi, si on veut que paraisse chez nous cette bienveillance. Après, le Seigneur est proche. Je vous ai lu ce matin, le Seigneur est proche. Là, je viens de vous citer ça, mais ce matin, je vous disais, la parole est tout près de toi, sur tes lèvres et dans ton cœur. Entends la parole de la foi que nous prêchons. Mais la parole, c'est le verbe de vie. C'est Dieu qui se fait présent à travers la parole. Donc, le Seigneur est proche. Il est proche du pauvre. Il est proche du cœur qui souffre, il se fait proche. Et plus un chrétien vit sa vie de foi, il rend Dieu présent au milieu du peuple. Le petit que l'on sert, c'est le Christ, à travers une personne. Quand Jésus vient nous dire « Ce que tu fais au plus petit, c'est à moi », c'est donc la présence de Jésus-Christ, bien sûr, discrète, et comme à travers un voile. Ça aussi, c'est une grâce que Dieu donne à l'âme qui se dépouille, voir Dieu. Le Seigneur est proche. Et là, est ajouté, n'entretenez aucun souci. Dans un verset de psaume, il est dit, remets tes soucis au Seigneur et lui-même te nourrira. Comment c'est important de s'abandonner entièrement dans les mains de Dieu, qu'on ne voit pas. Naturellement, quand quelqu'un vient à nous qui veut nous rendre service, on a des fois notre fierté, on ne voudrait pas se faire aider. L'humilité d'accueillir l'autre qui vient exercer la charité à votre égard, qui vient rencontrer le Christ, il faut donner la chance à l'autre de rendre grâce à Dieu par son comportement. N'entretenez aucun souci, mais en tout besoin, recourez à l'oraison et à la prière. Des gens qui se regroupent pour vivre dans la prière, c'est important de prendre conscience du besoin de la prière. De la prière, c'est celle qui est faite spontanément, celle qui est faite en disant le Notre Père ou le Je vous salue Marie, mais celle de la prière aussi qu'on appelle la prière d'oraison, où on se met en la présence de Dieu dans le silence, puis qu'on vient lui demander de nous parler au cœur, de nous transformer. C'est pas facile d'apprendre à faire oraison. Mais pour un chrétien qui veut faire exploser les dons en vue du bien commun et le bien de l'Église, il doit avoir ce souci de trouver des temps importants d'oraison, de colloque intime avec le Seigneur dans la prière. Mais ça sera plus facile pour une personne qui a l'habitude de se détacher, de faire oraison dans le silence, qu'une personne qui est attachée. Parce que dans la prière d'oraison, on peut méditer sur une parole, on peut être toujours distrait. « Oh mon Dieu, mon rose-bif qui est en train de brûler. » Ou différentes choses. « Oh mon Dieu, est-ce qu'elle va venir aujourd'hui? Où est-ce qu'il va venir? » Ça, ça peut tout arriver durant la prière. Il faut être capable de regarder les distractions qui nous arrivent durant la prière. Vous pouvez être certain que si vous creusez un peu, vous allez voir que ce sont des attaches. Des attaches. « Oh, mon fils, il est parti au Mexique. Puis si vous saviez, monsieur, patati patata, elle ne peut pas prier. Elle vient tout à l'envers, la personne. » Bien sûr que c'est son fils. Mais saint Paul, il vient nous dire que ce soit quelqu'un qui est marié ou quelqu'un qui a des enfants ou tout ça ou des biens, qu'ils en aient comme n'en ayant pas. C'est saint Paul, là, qu'il ait une épouse comme n'en ayant pas. C'est fort, ça, là. Vous avez juste épouvantable qu'il pense de même. Non, ce qu'il veut faire ressortir, c'est cette idée d'attache. Puis comme être humain, c'est épouvantable comment qu'on s'attache facilement, à la fois à des biens, à la fois à des personnes, à la fois à des événements, à la fois à des endroits. Ces attaches-là, si moi je veux prier dans la solitude, puis là je suis toujours distrait, mon père, mais oui, regardez donc voir le nombre d'attaches que vous avez, puis détachez-vous de ça. Puis vous allez vous rendre compte comment le Seigneur va venir prendre possession de votre cœur. Alors, je continue mon texte. En tout besoin, recourez à l'oraison, à la prière, pénétrez d'action de grâce, savoir remercier dans les épreuves comme dans les belles choses. Pour présenter vos requêtes à Dieu. Et voici la petite conclusion très importante. Alors, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, cette paix prendra sous sa garde vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Ici, quand saint Paul parle de ça, il parle de la paix comme si c'était une personne. Et la paix prendra sous sa garde vos cœurs, comme étant une personne, certainement le prince de la paix. Alors, les démarches que nous faisons, ne pas se soucier, se réjouir, ne pas se soucier, prendre conscience que Dieu est proche, n'entretenir aucun souci, en effet, c'est ne pas se soucier, savoir que Dieu va venir à notre aide, puis qu'en tout besoin, on sache recourir à la foi, à la prière. Ça, ça ne veut pas dire que vous êtes à genoux du matin au soir, mais c'est que Dieu vient disposer notre cœur et notre âme comme une espèce d'attitude, d'habitude, soit en travaillant, soit en faisant la popote, soit en accueillant les gens. Spontanément, l'Esprit-Saint vient inspirer des petits jets d'amour, des petites flèches. Seigneur, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Sois mon espérance. Toutes sortes de petits mots très courts que Dieu nous inspire. Prends pitié de moi qui suis pécheur. Fais partie de ces jets d'amour, de ces flèches. Ça apprend à l'âme à vivre en la présence de Dieu parce qu'on se trouve à parler au Seigneur. Rappelez-vous, on a chanté au début qu'on est le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit, il ne faut pas le remplir de meubles. Le temple du Saint-Esprit, c'est tout l'être. Mais en particulier, au fond intérieur de notre âme, quand on a des bagages de toutes sortes, on n'est pas capable de prier facilement. Rappelez-vous de la chasse des vendeurs du temple. Et vous comprendrez, le Seigneur, quand il avait pris le fouet pour sortir les vendeurs du temple, on disait qu'il y en a qui voyageaient dans le temple, puis qu'il y avait des tables d'échangeurs et tout ça. On vient nous parler que le Seigneur a tout chassé ça. Et il dit, ma maison, c'est une maison de prière. Notre vie, notre corps et notre cœur, notre esprit, notre âme, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est un lieu de prière. Et Dieu apprend comment conserver ce temple pour pas qu'il y ait des échangeurs, des voyageurs, puis toutes sortes d'affaires. Les voyageurs, les échangeurs, c'est les attaches. C'est ce qui arrive en temps, vous savez. Rapportez ça, reliez ça. Mettez-y une relation étroite avec la parole qui est semée dans la terre des cœurs, où il y a des attaches, puis vous verrez que ça se ressemble. Quand le Saint-Esprit a inspiré ces textes, il y a beaucoup de choses qui sont cachées en arrière des mots, mais qui révèlent une même réalité. Dieu présent, qui est jaloux, un Dieu jaloux, qui veut être adoré, qui veut être aimé, qui veut être servi, sans attache. C'est pour ça qu'un jour, il avait dit qu'il voulait voir chez chacun de nous le dépouillement. Alors, j'aborde cette question du dépouillement. J'avais posé la question à quelqu'un. L'espérance, est-ce que c'est gratuit, ça? Est-ce que ça nous est donné comme ça? On dit que la foi, c'est un don de Dieu. Je m'imagine que l'espérance aussi fait partie de la foi. Mais comme la foi doit être développée, que la foi est un peu comme un grain de sénévé qui doit grandir, ainsi en est-il de l'espérance. Si la foi grandit, l'espérance grandit. On va regarder ce que le Seigneur a voulu nous parler quand il a parlé de la tour, qui de vous, s'il veut bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? On pourrait prendre chacun notre vie puis regarder quand on a voulu prendre des décisions. On ne fait pas rien à la légère. On veut faire une dépense, on s'assoit puis on regarde. De peur que s'il pose les fondations et se trouve ensuite incapable d'achever, tous ceux qui le verront ne se mettent à se moquer de lui en disant « Voilà un homme qui a commencé de bâtir et a été incapable d'achever. » Ou encore, quel est le roi qui partant en guerre contre un autre roi ne commencera par s'asseoir pour examiner s'il est capable, avec 10 000 hommes, d'aller à la rencontre de celui qui marche contre lui avec 20 000. Sinon, alors que l'autre est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ah! Deux images, la tour et l'armée. Mais le Seigneur vient donner une même conclusion pour les deux images. Pareillement, donc, quiconque parmi vous, quiconque, c'est tout le monde, quiconque parmi vous ne renonce pas à tous ses biens, ne peut être mon disciple. On parle de demander la paix. Dans la conclusion, le prix à payer pour avoir les moyens de bâtir la tour, c'est le détachement des biens de ce monde, le renoncement, pour s'attacher aux biens invisibles, ceux qui ne passent pas. On pourrait faire un parallèle entre bâtir cette tour et bâtir l'espérance en notre âme, grandir et s'affermir dans l'espérance par le détachement de tous ses biens et surtout de soi-même. Très difficile, d'après les saints, de se détacher de soi-même. Que l'on soit baptisé, vivant dans le monde, ou consacré dans la vie religieuse, le même problème de fond est là. Il n'est pas facile de se détacher de soi-même pour être tout entier donné au Christ dans les autres. Ce n'est pas facile. Beaucoup d'obstacles arrivent à notre intelligence puis à notre sensibilité. La fidélité, la décision, la volonté de se renoncer par amour pour le Christ et pour l'Église nous facilite énormément la vie spirituelle, nous facilite énormément l'acquisition de la paix de l'âme. Et je ne vous apprendrai rien en vous disant que acquérir la paix de l'âme facilite l'exercice des dons de l'Esprit-Saint. On ne peut pas discerner correctement les mouvements de notre âme et ceux des autres sans la grâce de l'Esprit-Saint qui est acquis par le fait que l'on vit dans la paix de Dieu. La paix de Dieu est important pour avoir cette sensibilité des inspirations du Saint-Esprit dans notre âme et d'être à l'écoute du Dieu trois fois saint qui veut parler au fond de notre âme et qui veut parler à ceux qui nous entourent. Donc, la conclusion que je fais de ce texte de la tour et de l'armée, c'est la paix est nécessaire pour connaître et expérimenter l'agir du Saint-Esprit en notre âme et dans les autres, pour entendre ses paroles et pour saisir ses inspirations, cette paix de l'âme entretenue est certainement aussi importante pour demeurer sous la mouvance du Saint-Esprit et être comblé d'espérance. Quand vous êtes en assemblée, que vous agissez avec foi, par exemple, pour une personne qui est malade, vous agissez avec foi, avec l'espérance de voir Dieu guérir la personne. Regardez ça passer là. Est-ce que c'est uniquement l'esprit de foi qui vous pousse à agir pour prier pour la personne dans l'espérance qu'elle soit guérie? Quand vous priez, vous faites une prière avec l'espérance de voir une promesse du Seigneur, la guérison. Mais vous devez être inspiré par l'amour. Mais l'obstacle à l'amour, c'est tout d'un coup que je manque mon coup. En priant, puis que je ne vois rien, je vais fondre. Ils vont me dire, « Mais sa foi n'est pas bien grande. » Non. C'est une chose qu'il faut bien remarquer, qu'on ne doit pas agir dans un but de voir la prière exaucée que l'on fait. Il s'agit de croire. Le Seigneur a dit, « Tout ce que vous ferez en mon nom, vous ferez des choses encore plus grandes. Croyez que déjà vous l'avez reçu, et cela vous sera donné. » Mais le Seigneur n'est jamais venu nous dire quand. Vous devez remarquer ça. Parce que ça aussi, dans le mouvement charismatique, c'est des obstacles. L'intelligence vient mettre des blocages face à la démarche de foi, parce que j'ai fait ça tant de fois, puis rien s'est passé. Le père Emiliano Tardi, qui a été reconnu comme ayant le charisme de guérison, raconte dans ses livres que, dans les débuts, rien se passait. Ça en était déboussolant. Mais il a continué d'agir. Puis il était au-delà de ses raisonnements. Parce que c'est surtout quand on raisonne que ça détonne dans ce domaine-là. L'accueil d'une inspiration va venir plus facilement chez quelqu'un qui vit dans la paix. Et celui qui vit dans la paix peut être certain que le Seigneur agit parce qu'il est certain qu'il se détache. Le Seigneur n'a pas parlé que pour les religieux dans le détachement, il a parlé pour tous, le dépouillement, de ne pas tenir à ce monde, mais de s'en servir pour aller vers Dieu. Il nous a prêté sur cette terre tout ce qu'on voit, mais ce n'est pas pour y tenir, ce n'est que pour s'en servir. Dans ces conditions, on développe la paix de l'âme. Puis là, je vous parle quand même avec un petit peu d'expérience. Je suis rendu à 77 ans. Puis, je sais la différence entre pas vivre en paix puis vivre en paix. Mais, je me suis rendu compte que c'est à travers l'accueil de l'épreuve qu'on trouve la paix de l'âme et qu'on est plus sensible aux visites de Dieu. Je ne dis pas que Dieu va toujours se montrer presque face à face avec vous, mais il va se faire percevoir à travers le voile, en y donnant au fond de l'âme une certitude. Et Thérèse d'Avila, là-dedans, est assez drôle parce qu'elle le dit elle-même, qu'à des moments donnés, Dieu, le Seigneur, est venu la visiter, alors qu'elle était bourré de toutes sortes d'obstacles dans l'esprit, dans le cœur. Elle se débattait. Et tout d'un coup, le Seigneur vient juste lui dire cette petite parole. « Ne crains pas, ma fille. » Et elle raconte, tout s'est évanoui, complètement. Là, je touche à ce qu'on appelle l'intervention de l'Esprit-Saint par une parole toute puissante, une parole substantielle. Pourquoi pas le Seigneur, dans sa grande bonté et dans son grand amour, ne voudrait-il pas faire cela avec vous? Il faut ne pas craindre de demander au Seigneur, « Viens me donner cette parole substantielle à mon cœur qui va faire de moi un envoyé, un témoin authentique qui ne craindra plus rien. » Parce que vous le savez, on est bourré souvent de crainte, de peur, peur de l'opinion d'autrui, peur de ce qu'on pense de nous. On a peur de la critique. On a peur d'être contrarié. Quand on vide ses peurs, parce que ça fait partie des attaches, quand on apprend dans la prière à demander au Seigneur cette grande faveur, de ne plus tenir à rien de ces sortes de peurs, de ne pas s'en occuper, là arrive cette paix de l'âme qui surpasse tout sentiment. Puis Dieu vient prendre possession de notre cœur et de nos pensées. C'est ce qui est arrivé avec Thérèse Avila. Je veux continuer dans la même veine. Je vous ai dit que le fait d'accepter le détachement apporte à l'âme une assurance, une certitude qu'on marche droitement, une certitude de soldat, d'apôtre, pour parler au nom du Seigneur. Écoutez saint Paul, ce fougueux, ce brûlé d'amour pour le Christ Jésus, nous dire ceci. Nous nous glorifions encore des tribulations, sachant bien que la tribulation produit la constance. Je veux vous rentrer ça un peu comme un clou. La tribulation bien accueillie produit la constance chez l'être humain. Et la constance produit une vertu éprouvée. Donc, vous avez la patience, vous avez la douceur, vous avez l'humilité. Parce que dans l'humilité, l'âme humble reconnaît qu'elle ne mérite rien, qu'elle a beaucoup offensé Dieu dans sa vie et qu'elle doit plutôt faire pénitence en union avec le Christ pour sauver les âmes et parvenir au salut et s'unir au Christ Jésus. Donc, produit une vertu éprouvée. Et la vertu éprouvée produit l'espérance. Ça, c'est la parole de l'Écriture. Oui, Seigneur, nous croyons à cette parole qu'un jour tu as prononcée par la bouche de Paul. Et l'espérance ne déçoit point, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous fut donné. Le témoignage de saint Paul venait dire aussi aux Corinthiens, nous portons partout et toujours, c'est des mots assez radicaux, partout et toujours, en notre corps, les souffrances de mort de Jésus. Quand il affirme cette parole, il vient parler de toutes les formes d'épreuves qu'il pouvait vivre. Mais il donne la raison pourquoi il porte ses souffrances. C'est afin que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre corps. Vous voyez, l'idée de refléter la vie de Dieu à travers notre vie, parce que nous acceptons la mort. Regardez, le Seigneur disait un jour, si le grain de blé tombe en terre, meurt pas, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Voyez l'idée de la mort, résurrection. Voyez aussi l'idée de mort dans notre vie de chaque jour, explosion des vertus et des dons, qui sont des manières de vie manifestées. Quand dans le mouvement charismatique, vous allez prier pour un malade, c'est que vous voulez que Dieu lui donne la vie. Quand quelqu'un est sous l'emprise de l'esprit des ténèbres et qu'il y a un exorcisme, c'est pour le délivrer des ténèbres, pour permettre la lumière. Ça a toujours un rapport avec la vie. Quand arrive le don de science qui se manifeste, c'est pour éclairer une âme, ou le don de conseil pour diriger une âme pour qu'elle pas qu'elle se trompe, qu'elle aille dans la bonne route. C'est des dons de vie. Il faut payer le prix pour donner la vie. Regardez ceux qui donnent la vie, regardez les mères de famille, ils se sacrifient pour donner la vie. Cette idée de mort-vie, on le trouve dans tout le temps pascal, où le Christ a donné toute sa vie et puis ressuscité. Et la Pentecôte s'en vient, qui est un fruit de la résurrection, une force qui va nous être donnée. C'est le Seigneur qui vous rappellera les mots que vous aurez trouvés importants pour votre vie dans ce que je vous dis aujourd'hui. Vous ne retiendrez pas tout, mais vous retiendrez une chose. Si tu crois, tu vas espérer. Si tu crois dans la parole de Dieu et en son Église, tu vas espérer. Mais si tu crois en tout le monde et dans les choses terrestres, tu vas désespérer. Tu ne grandiras pas dans la foi et dans l'espérance, mais tu t'en vas vers la ruine. Tandis que si tu crois en la parole, en l'Évangile, tu vas espérer dans les biens invisibles. Et entre autres, tu vas espérer que Dieu se manifeste dans ta vie et dans la vie des autres. Rends Dieu présent au milieu du peuple. La meilleure façon de rendre Dieu présent au milieu du peuple, c'est en acceptant de mourir comme la graine qui tombe en terre, afin que Dieu se manifeste. Et quand saint Paul vient nous parler de la chair et de l'esprit, il vient nous dire qu'il faut obéir à l'esprit. Il faut donc mourir aux œuvres de la chair pour que Dieu se manifeste, telle une lumière à travers des enfants qui sont devenus enfants de lumière, parce qu'ils se sont collés à la parole. Ta parole, Seigneur, une lampe sur mes pas, une lumière sur ma route. Rappelez-vous de ça. Et la parole du Seigneur est parfaite, dit le psaume. C'est elle qui fait revivre mon âme. Cette parole vécue nous fait voir Dieu à travers tous ceux qui nous entourent. Mais on peut voir Dieu parce qu'on accepte de mourir. Saint François, un jour, est venu dire, en interprétant une parole de d'un texte de l'Ancien Testament. Personne ne peut voir Dieu sans mourir. Dieu est esprit. Il s'est fait voir en son Fils Jésus-Christ, le Verbe de vie, parole vivante. Pour voir Dieu à travers ceux qui nous entourent, il faut accepter d'embrasser courageusement, généreusement, amoureusement, la croix du Christ, sous toutes ses formes. Si j'insiste tant pour vous dire cette affaire-là, c'est que c'est la grande difficulté en vie spirituelle de beaucoup qui ont délaissé la croix. Dans la croix, il y a aussi la soumission aux autres. Saint Paul vient parler de « les prophètes sont soumis aux prophètes ». Vous avez cette réalité que si des gens croient que Dieu se sert d'eux comme prophètes, ils doivent accepter de se soumettre à d'autres afin d'être protégés. Et ça fait partie d'un certain renoncement à ce qu'on appelle notre façon de voir. Dans les termes spirituels, ils vont dire le sens propre. Le sens propre, c'est cette façon de penser à moi et à moi seul, puis que je trouve que je suis le seul à bien penser. Tandis que le sens de Dieu, c'est de m'appuyer sur la parole et sur l'enseignement de l'Église et d'épouser ce sens-là pour servir Dieu. Ce qui fait toute la différence et qui apporte la paix de l'âme. Les schismes dans l'Église sont venus des gens qui ont cru que tout leur était révélé de Dieu, mais qui après ça ont refusé de croire à la parole de Dieu sans le dire, mais à l'autorité qui est placée et que saint Paul vient dire que toute autorité vient de Dieu. Dans l'Église, un évêque, c'est l'autorité du Seigneur en place. Quand l'évêque a parlé, même si une âme croit qu'elle a toutes les révélations du monde, elle doit se soumettre à la tête. Je vous dis ça parce que l'Église, on souffre de différentes choses qui se passent. Vous avez la fameuse question de l'armée de Marie, vous avez dû en entendre parler. On a affirmé mordicus, et nous autres, on en a été témoins dans le passé, comment que c'était le bon Dieu, puis ça finissait là. Même si les prêtres venaient leur dire « c'est pas correct », non, c'est un prêtre qui est contre le mouvement. Alors, dans le mouvement charismatique, il est important de vivre cette sorte de renoncement, d'accepter amoureusement de se soumettre les uns aux autres. Ça enlève la division, ça enlève l'esprit de chicane et ça permet l'union. Puis c'est le désir de Dieu qu'on vive en paix les uns avec les autres. Voilà qu'une âme qui sait se renoncer, qui sait se mortifier, donc mourir à soi-même, va permettre cette union, cette paix dans un groupe et l'explosion des dons. Souvent, les dons ont été étouffés par des divisions, par l'esprit de division. C'est pour ça que c'est bon de prier pour qu'il y ait un renouveau face à la Pentecôte qui s'en vient, pour que des gens s'ouvrent à cet esprit de paix, à cet esprit de charité, à cet esprit de soumission, pour que Dieu se fasse voir à travers chacun des personnes. Je vais finir mon texte. Nous portons toujours partout en notre corps les souffrances de mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre corps. Quoique vivant, en effet, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus. Afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. Et ça, vous pourrez en être convaincu quand vous vivrez véritablement ce sens de l'acceptation de l'épreuve. Le Seigneur se servira de vous pour manifester sa vie à travers vous et à travers ceux qui vous entourent. Possédant ce même esprit de foi dont il est écrit, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » Nous croyons nous aussi, c'est pourquoi nous parlons, sachant bien que celui, le Père, qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera, nous aussi avec Jésus, et nous placera près de lui avec vous. Vous avez ici, par avance, manifesté la gloire de la résurrection, la promesse parmi toutes les promesses de la résurrection des corps, de la vie éternelle. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Crois-tu que je suis la résurrection et la vie? En demandant ça à Marthe, elle dit, bien certain. L'espérance en la résurrection, l'espérance en la vie éternelle, l'espérance à voir Dieu face à face et l'espérance de le voir à travers ceux qui nous entourent malgré le voile. Parce que c'est un don de Dieu, c'est une grâce de Dieu. Ce que tu fais au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu le fais. L'exercice des dons fait référence à cet esprit de foi en la parole. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils feront ceci, ils feront cela. Comment c'est important cet esprit de foi? Ce n'est pas un esprit de raisonnement. Ce n'est pas un esprit de sensibilité. C'est une adhésion, ce que je vous ai dit ce matin, de toute l'être, de toute la personne. Ce que je vous souhaite, c'est que vous entriez dans cette vie spirituelle avec la joie au cœur, avec cette foi qui transporte les montagnes, que Dieu est vraiment présent et qu'il nous aime et qu'il a déposé en nous toutes les germes de l'immortalité, de l'incorruptibilité puis de la résurrection. Ça, là, ça fait partie de l'espérance. Et vous allez espérer d'autant plus que vous croyez en la parole et que vous la vivez. Parce que ce n'est pas tout dire que je crois à la parole. Croire dans le vrai sens que l'Église nous l'enseigne, c'est mettre en pratique la parole reçue. C'est pour ça que Saint Jacques va venir dire: moi, je vais te montrer ma foi par mon agir. L'autre, il dit, moi, je crois, mais ta foi est morte parce qu'il n'y a pas d'agir. C'est quoi l'agir? L'accomplissement de la volonté de Dieu. Et on a comme exemple Abraham. Le Seigneur lui a demandé, va immoler ton propre, ton unique fils. Abraham a cru et il s'exécuta. Et c'est dit dans le texte, il se leva de bon matin. Ça, ça veut dire la promptitude. Et il s'en alla pour immoler son fils. Parce que, dit saint Paul, il crut que Dieu était assez puissant pour le ressusciter. C'est fantastique quand on pense à ça. Alors, cet acte de foi est accompagné d'œuvres, de l'agir, de l'accomplissement de la volonté de Dieu que je connais. Et ça, c'est extrêmement important pour quelqu'un qui vit dans le mouvement charismatique. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Que je l'accomplisse. Et qu'on puisse dire, comme le prophète Isaïe dans le temple, alors que Dieu, le Père, le Fils et Saint-Esprit se parlaient, qui enverrai-je? Qu'est-ce qu'on va envoyer? Et là, Isaïe se dit, « Me voici !» Il avait reçu d'abord la purification d'un tison ardent. C'était le signe que Dieu passe par l'épreuve pour que quelqu'un soit solide, pour prononcer le nom de Jésus-Christ et sa parole, puis pour l'annoncer. C'est quelque chose de merveilleux. Alors, je vous souhaite que vous puissiez dire au Seigneur, « Me voici devant toi, fais de moi ce que tu veux. Amen. »